toujours Sylvius sur le Bruxelles Game Festival. Je suis en compagnie de Michel Van Langendonk. Est-ce que je l'ai bien prononcé déjà?
Ah, ça se passe bien là, oui, jusque-là. Merci, bonjour.
Alors, bonjour Michel. Alors, il se trouve qu'on vient de faire ensemble une table ronde sur la critique de jeux de société. Alors, ça va pas être spécialement le sujet de cette interview. Est-ce que tu peux te présenter et me dire quelle est ton activité en Belgique et donc au sein de Ludobel, puisque c'est ce dont on va parler?
Alors, professionnellement, je forme les futurs enseignants, mais au sein de la Haute École de Bruxelles qui forme les enseignants, nous abritons Ludo SBL dont je m'occupe. Et Ludo SBL est une association de promotion culturelle du jeu qui réunit évidemment toute personne qui est intéressée par le jeu, mais notamment les ludothécaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Donc en fait, vous avez un système de regroupement, on va dire, des ludothèques en Belgique?
Oui, oui, comme en France, vous avez l'ALF, nous avons deux associations, une association néerlandophone, le VOS, et une association francophone, donc Ludo SBL. Maintenant, l'objet social est plus large que simplement fédérer les ludothèques, puisqu'on fédère toute personne qui est intéressée par le jeu, puisque notre objectif, c'est de promotionner la valeur culturelle du jeu.
Alors en France, effectivement, il y a une association, l'ALF, l'association des ludothèques françaises, donc j'ai effectivement entendu parler, qui était présente à Cannes typiquement. Alors je sais qu'elle elle regroupe pas toutes les ludothèques, puisqu'on a eu l'occasion d'interviewer une ludothécaire de Trappe, et voilà, qui avait entendu parler effectivement de cette association, mais qui n'en savait pas beaucoup plus. Est-ce que votre association, elle, fédère toutes les ludothèques de la Belgique francophone, ou est-ce qu'il y a encore, on va dire, comme le village gaulois, des résistants?
Au niveau de la structuration, on n'est pas organisé de manière militaire du tout. Et donc, les services qui sont offerts, comme on bénéficie d'une subvention, évidemment, elle est offerte à tous. Et donc, il n'a pas lieu nécessairement de cotiser pour recevoir. Donc forcément, la notion de membre devient beaucoup plus subjective. Donc, toutes les ludothèques reçoivent les publications, toutes les ludothèques et toute personne qui en fait la demande, d'une manière générale. Donc, c'est beaucoup plus ouvert que ça dans le concept.
Alors, tu nous parles de publications. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste, ces publications?
On retrouve assez fréquemment sur les sites en matière de jeu des critiques de jeu, des avis, des forums, mais moins souvent des articles de réflexion, des articles de fond sur le jeu, sur l'histoire du jeu, sur des objectifs plutôt sociologiques, de la recherche, de l'échange, je vais dire d'ordre plus réflexif. Et donc nous avons deux publications en fait, l'Artichouette qui est à la base le magazine, le fanzine d'échange, il est publié en ligne et il est envoyé aux personnes qui se font membres, donc physiquement elles reçoivent chez elles alors le magazine en question, où il y a des articles un petit peu plus fouillés, et les cahiers de Ludo, qui sont là de la vulgarisation scientifique. Donc ce sont plutôt des chercheurs qui font des articles sur le jeu adressés à un public plus large que simplement les publications officielles universitaires.
Ok. Alors comment on peut se procurer ces publications? Parce que là, typiquement, on a beaucoup d'auditeurs français. Alors comment... j'imagine que le magazine, personnellement, je ne l'ai jamais vu en boutique, typiquement. Comment on peut y accéder?
Ah non, il n'est pas disponible en kiosque, évidemment. On n'a pas de distributeur par rapport au magazine d'ordre physique. Le plus simple, c'est de consulter le site. Hein. Le site internet fournit avec un petit délai, mais rend accessible l'essentiel de nos publications à tous en ligne et de manière tout à fait gratuite. Donc c'est le site www.ludobel.be et donc là il n'y a pas de souci, vous pouvez le lire. Évidemment ça a moins d'agrément de le lire à l'écran, mais tout de même vous avez l'information, il n'y a pas de souci.
Ok, c'est en libre accès, il n'y a pas d'abonnement
accès, oui, il n'y a aucun problème. Mais avec un certain délai. Si vous voulez avoir le magazine physiquement chez vous, bah alors il faut payer les coûts de publication et d'envoi tout simplement, ce qui revient à 24 € pour l'année, quoi. Et là, vous avez les 4 à 8 publications, si parfois on groupe les deux ou bien alors elles sont séparées.
Ok, super. Bon, de toute façon, je mettrai le lien sur le site, donc si nos auditeurs sont intéressés, ils auront jeté un petit coup d'œil. Alors, je vois dans ta petite plaquette que tu m'as donnée, une des missions de la Ludo, encourager les attitudes favorisant le développement durable. En quoi ça consiste chez Ludobel?
Bien sûr, là on est lié à la philosophie même des ludothèques qui encourage les gens à partager l'objet ludique. Et donc, ben, c'est le concept même de la ludothèque, c'est-à-dire d'emprunter un jeu. Pour 50 cents, on emprunte un jeu 15 jours et puis on le ramène à la ludothèque. S'il nous plaît, ben, on le reloue à nouveau. Puis au bout de 3 fois, ben, effectivement, il est temps de l'acheter. Mais il y a une tendance actuelle dans le jeu de société contemporain d'acheter pour posséder. Alors il y a des énormes ludothèques privées, mais qui prennent la poussière parce que les gens n'ont pas le temps de jouer les jeux qu'ils achètent, ce qui est bien dommage. Donc là, il y a vraiment une philosophie qui est de partager l'objet ludique en le testant dans les ludothèques d'abord.
À peu près toutes les ludothèques en Belgique proposent ce service parce qu'en France, c'est pas toujours le cas. Il y a des ludothèques bah, elles sont ludothèques, elles permettent aux gens de jouer sur place, typiquement, mais ne proposent pas un service de location.
Idéalement, la ludothèque propose 4 types de services. Le jeu sur place, le prêt, des animations ponctuelles et des activités d'ordre culturel, genre exposition, conférence, etc. Évidemment, pour être reconnu comme ludothèque, en Belgique, du moment qu'on a 2 de ces activités qui sont pratiquées, la reconnaissance est donnée. L'essentiel des ludothèques fournissent un service de prêt, en tout cas, oui. Parfois, elles n'ont pas la place pour faire du jeu sur place ou des animations, mais alors elles vont souvent faire des animations en extérieur et donc se déplacent, elles, vers les gens. Donc là, c'est une possibilité. Plus rarement, il y a cet aspect culturel d'exposition, de conférence, mais qui commence à se développer dans certains projets un peu plus larges.
En France également, il y a beaucoup de ludothèques qui sont en fait, voilà, quand on se renseigne sur sa ludothèque en ville, on voit le mot ludothèque, quand on est joueur, on fait ah oh, super, il y a une ludothèque dans la ville. Et en fait, on se rend compte que c'est adressé exclusivement aux enfants, souvent jusqu'à 6-8 ans et encore. Comment est le paysage en Belgique?
Les choses évoluent vite et je pense qu'elles évoluent aussi en France progressivement. Mais les demandes, les couples viennent en ludothèque beaucoup pour venir chercher des jeux, pour jouer eux-mêmes. Ce sont des 17-35 ans qui n'ont pas encore d'enfants. Donc il y a une forte demande et on répond à la demande. Donc les ludothèques ont de plus en plus de jeux tout à fait plutôt à connotation adulte. Je pense que la césure se fait à l'adolescence. Entre les 12 ans et 17 ans, pour les jeux de type figurine avec une atmosphère très immersive où il faut beaucoup de matériel, le produit est difficile à valoriser en ludothèque et donc on a moins d'adolescents. On a peu de jeux vidéo en ludothèque ou alors sous forme de produits d'appel simplement. Et donc les adolescents sont peu présents en ludothèque. Par contre, et les adultes et les enfants, c'est-à-dire les familles d'une manière générale, elles, on les retrouve assez fréquemment, il n'y a aucun souci.
Et parce qu'en France, en fait, ce que je voulais dire, je sais pas si on s'est super bien compris, mais en fait, c'est qu'il y a vraiment des ludothèques, c'est des endroits de jeux, de jouer, pas forcément des jeux de société. Tu vois, c'est du jouet en fait pour les enfants.
Oui, ben le jouet est une forme de jeu très intéressante parce que c'est le joueur qui fait le jeu. Et donc, on est Dieu sur Terre quand on fait le jeu, c'est formidable. Mais il est très important, alors après, de passer au jeu à règles pour apprendre à vivre ensemble, à se socialiser, apprendre à gagner et à perdre. Et donc, c'est une autre forme de jeu, mais c'est un jeu où la liberté est un petit peu plus cloîtrée, puisqu'elle est cloîtrée dans le domaine qu'a créé l'auteur de jeu. Mais c'est un autre plaisir, c'est très complémentaire. Je pense qu'il y a progressivement aussi des jouets qui se développent pour adultes, même dans la capacité à créer ses propres variantes d'un jeu, on retrouve alors ce plaisir de la création en tant qu'adulte. Et donc alors le jeu à règles redevient un jouet en quelque sorte. Et donc oui, nous avons des jeux à règles beaucoup et de plus en plus puisque ce mouvement se développe actuellement un petit peu partout en Europe. Ce sont les Eurogames, hein, ce sont ces jeux à règles et pas que des jouets. Dans la plupart des ludothèques maintenant, les jeux à règles se sont largement développés. Oui, ça ferait vraiment 20 ans chez nous que le mouvement est abouti.
Est-ce que tu me parlais de jouets pour adultes? Est-ce que tu as entendu parler des Mechanic Arts ou encore de la Green Box, il me semble, la Green Box qui doit sortir à Essen? Enfin, j'ai vu ça très rapidement sur Board Game Geek. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez?
Oui, les Mechanic Arts, on les utilise. Alors, dans un autre cadre par rapport à Ludobel, c'est qu'on est partenaire de la formation sciences et techniques du jeu, qui est un diplôme en Belgique sur le jeu, dont l'un des axes importants est évidemment le game design, l'apprentissage de la création d'un jeu. Et là, en travail préparatoire, il y a des ateliers où on utilise les Mechanic Arts de Prismatic notamment, mais d'autres comme un jeu assez peu connu qui est Galaxy de Fred Horn, un Hollandais gros collectionneur de jeux, qui avait fait dans les années 90 un jeu avec toutes des galaxies dont le but était de créer une règle de jeu. Et donc, avec ce genre d'outils, c'est clair qu'on décomplexe la personne qui veut créer un jeu, puisque on se rend compte qu'avec des règles très strictes, un cadre très très étroit, la créativité est boostée et on n'est pas dans l'angoisse de la feuille blanche en quelque sorte. Et donc, les étudiants sont un petit peu décoincés. Et après, on leur met dans les pattes des auteurs aguerris. Donc, il y a d'abord un éditeur qui situe, c'est Cédric Caumont. Et puis ensuite, Olivier Grégoire, Thibaut Quintens, Philippe Kerr s'intervenait aussi, accompagne les étudiants dans la création d'un jeu de A à Z, alors dans la conception. Donc ça, c'est un axe de développement. Et dans ce cadre-là, les Mechanic Arts sont un outil très intéressant.
Ça, c'est un cursus, tu dis, universitaire, c'est ça? Ça se trouve où?
Oui, ça se donne à Bruxelles et c'est un cursus de bac niveau bac plus 4. C'est-à-dire que dès qu'on a une formation bac plus 3, on a accès à cette formation. Et donc, c'est une année complète, 60 CTS, donc 750 heures. Donc, c'est du costaud, c'est généraliste par rapport au jeu. Mais donc, à côté de l'axe game design, il y a un axe plutôt ludologique, histoire du jeu, socio-anthropologie du jeu, philo aussi. Et puis, il y a des aspects plus ludopédagogiques, ludothéconomique et ludothérapique.
Alors pour revenir plus à ce qui se passe sur le festival, alors moi d'abord j'ai vu un énorme stand en fait, Ludobel. Alors j'ai eu un petit peu de mal au début parce que on a l'impression que c'est des stands différents, mais en fait ils sont tous sous la même tente. Tu peux m'expliquer un petit peu?
Oui, ben, il y a une forme de village des ludothèques, on peut appeler ça comme ça. C'est venu de notre autre organisme, parce que le Bruxelles Game Festival, nous sommes co-organisateurs hein, du Bruxelles Game Festival, mais nous avons un autre festival au mois de novembre qui s'appelle Jeux Thème, où c'est vraiment un village essentiellement des ludothèques, alors qu'ici c'est beaucoup plus large évidemment. Et donc, dans le concept village des ludothèques, ben, chacun a sa tente. Mais il y a un lien, puisque tout le monde se connaît évidemment et tout le monde donne un coup de main dans la tente d'à côté, ça pose aucun problème. Et donc, bien sûr, là, il y a la tente plutôt de l'association des ludothèques, mais il y a le secteur ludothèque de la Kokov juste à côté, et puis il y a la ludothèque de l'Œuvre nationale des aveugles, il y a Alpaludisme qui est une ludothèque spécialisée pour adultes. En France, on appellerait ça un club de jeu, mais un club de jeu n'est rien d'autre qu'une ludothèque en fait spécialisée avec un public adulte. Et donc, il y a Let's Play Together qui est une ASBL. Qui développe l'animation de jeu, qui a elle aussi une vocation ludothécaire. Donc, ça crée une communauté associative, je vais dire, par rapport à un magasin ou quelque chose qui aurait quelque chose à vendre. Nous n'avons rien à vendre que des services, quoi.
Justement, vous en proposez des services sur le festival? Vous faites des ateliers, je sais pas, vous t'as participé à une table ronde, effectivement, toi. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre?
Oh, les prestations sont multiples. Il y avait un atelier de SOS jeux anciens, puisque nous sommes ici à côté des musées royaux d'art et d'histoire, et nous avons des artefacts archéologiques extraordinaires. Il y a notamment la tablette d'argile crue qui date il y a 6000 ans, de moins 4000, qui est en fait le jeu le plus ancien au monde qui se trouve ici à 200 mètres. Et donc, on a une animation pour les familles. Donc, il faut aller découvrir les jeux dans le musée. Et c'est surtout les enfants qui s'y attellent pour alors dessiner, prendre des informations. Et donc, il y a toute une structuration qui a été faite. C'est une étudiante en sciences techniques du jeu qui a développé ce projet. Elle est historienne de l'art, donc elle était aux premières loges. Hein. Mais ce sont plutôt des jeux antiques. Alors, donc voilà un service qui est offert sous l'égide de Let's Play Together, où elle faisait son stage cette année-ci. Maintenant, il y a plein d'autres choses, évidemment. La création de jeux avec du matériel de récupération, ce qui est quand même plutôt dans une démarche aussi éco-responsable et non commerciale.
On arrive à faire quelque chose avec un vieux Monopoly ?
Ah, il y a plein de choses à faire, bien sûr. Surtout qu'en Belgique, on a une brique dans le ventre et donc les petites maisons, on peut en faire des villages. Il y a plein de choses possibles. Et puis finalement, dans un hôtel, on met plusieurs maisons. Donc oui. Et puis il faut pas oublier que le Monopoly, on a le tiers Monopoly, on a l'anti-Monopoly et alors on a surtout le chômageopoly, qui est le jeu le plus ancien en Europe, qui est français. Ce sont des ouvriers de l'usine LIP à Besançon en 1974, alors que l'usine devait fermer puisque c'était les chocs pétroliers à l'époque. Eh bien, ils n'ont rien fait de mieux que de fermer l'usine, oui, mais tenir l'usine en construisant un jeu qu'ils ont appelé Chômageopoly. Et c'est le premier jeu coopératif en Europe puisqu'il faut parvenir à faire tourner l'entreprise sans vider les travailleurs. Et ils en ont édité 300 exemplaires. Et donc, nous, on montre le jeu, effectivement. Je pense qu'au Centre national du jeu en France, ils en ont un également.
C'est fort possible. Il y a beaucoup de choses au Centre national des jeux, effectivement.
Donc, avec le Monopoly, finalement, en réfléchissant le Monopoly avec un regard décalé, on peut faire plein de choses.
Ok, assez rigolo. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur ton activité ici, sur le Wizard Game Festival ou en dehors ?
Oui, il y a encore un axe de développement, c'est plutôt les sélections de jeux. Plus que les critiques, nous faisons des sélections de jeux sur l'année parce que ça permet aux ludothèques d'appréhender le public avec des animations. Donc on fait une sélection d'une trentaine de jeux qui sont testés et joués. Il y a 5 finalistes et ces 5 finalistes sont testés pendant 3-4 mois sur des salons comme celui-ci ou dans les ludothèques par le grand public. Et ça s'appelle le label Ludo et c'est le label Ludo du meilleur jeu familial. Et donc là, on a quelques jeux qui sont testés et qui sont en train d'être testés sur le festival. Et au mois de novembre, lors de notre autre festival Je t'aime, on proclamera le gagnant. L'année passée, c'était Mahé, c'est un jeu de Randolph qui était pour la première fois édité en français. Qui est assez sympa. Mais il y a eu Saboteur en 2003, c'était la première année. Il y a eu Picomino, d'autres jeux comme ça. Donc là, c'est un axe plutôt de sensibilisation, mais c'est plus classique, je veux dire, puisque c'est proposer aux joueurs une sélection de jeux qui ont plu.
Ok, tu peux nous donner les dates de Je t'aime, c'est ça ?
Je t'aime, ce sera fin novembre. Donc la date, est-ce que c'est le 29, 30, dernier week-end de novembre ?
Ok, dernier week-end de novembre, je rechercherai, j'essaierai de mettre les dates sur le billet. Ok, d'autres choses à ajouter ?
Merci beaucoup.
Merci à toi pour cette interview et ce temps que tu m'as consacré. À bientôt.
Au revoir, au plaisir.